VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique du Nord. En Libye, plus de 1800 familles ont été déplacées par les combats opposants depuis le 27 août des milices rivales près de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué ce mardi le gouvernement d'Union nationale GNA reconnu par la communauté internationale. Après une pause de quelques heures, les combats ont repris en fin de matinée au sud de la capitale libyenne. Une réunion sous l'égide de l'ONU à laquelle sont conviées toutes les parties au conflit est prévue aujourd'hui. Mais la tâche de la MANUL, la mission de l'ONU en Libye, s'annonce ardue vu le nombre de belligérants impliqués dans les combats qui ont fait au moins 50 morts et 138 blessés, selon un dernier bilan officiel publié lundi soir. Les affrontements opposent des groupes venus de Tarouna et Misrata dans l'ouest du pays à des factions armées tripolitaines théoriquement sous l'autorité du GNA. Mais cet exécutif est accusé d'être sous la coupe de ses milices dont dépend sa sécurité et celle de Tripoli depuis son entrée en fonction en mars 2016. Crise migratoire maintenant, la mer Méditerranée a été plus mortelle que jamais pour les migrants au cours des premiers mois de 2018. Plus de 1600 personnes y ont trouvé la mort depuis le début de l'année, selon un rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, publié lundi. Les explications de Céline Smith du HCR, joint à Paris par Ekia Badou.
1600 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe en mer Méditerranée et notamment en mer Méditerranée centrale. C'est les données que nous avons, mais il pourrait y avoir d'autres personnes mortes qui n'auraient pas été rapportées.
On voit aussi dans ce rapport que les routes ont changé. Est-ce que le fait que les routes ont changé, cela signifie qu'elles sont peut-être plus dangereuses au vu de ce chiffre qui augmente ?
Il y a une augmentation du nombre de personnes qui sont arrivées, notamment en Espagne, mais également en Grèce. Les nationalités qui arrivent par ces différentes routes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas pour l'instant faire un lien entre la baisse des arrivées en Méditerranée centrale, donc vers l'Italie, avec l'augmentation des arrivées en Espagne. Certaines nationalités sont les mêmes, mais elles l'étaient déjà l'année dernière. Donc on n'a pas d'éléments pour l'instant pour dire qu'il y a un lien entre l'augmentation de la route en Espagne et la diminution d'une autre route.
Ce rapport est intitulé « Voyage désespéré ». Pourquoi ce choix de titre ?
Parce que les personnes qui entament ce voyage n'ont pas d'autre choix. Fuient la persécution, fuient la guerre, parfois la pauvreté. C'est un voyage désespéré parce qu'ils savent aussi que la route est meurtrière. Elle l'est maintenant plus que jamais. Et donc cela appelle à d'autres solutions et nous voulons attirer l'attention justement sur cette situation dramatique pour également appeler les États européens à proposer davantage de voies légales comme des visas humanitaires ou des bourses d'études aussi pour des personnes en besoin de protection. Le nombre de places qui ont été offertes cette année par les États européens est de 13 000, mais les besoins sont bien plus importants, à la fois de réfugiés qui se trouvent dans des pays qui mènent à la Libye, donc qui sont sur la route de la Méditerranée centrale, mais aussi pour les réfugiés que nous évacuons de Libye, puisque depuis la fin de l'année dernière, nous avons un programme d'évacuation humanitaire de réfugiés de Libye vers un centre de transit humanitaire au Niger, afin que les personnes soient ensuite réinstallées vers d'autres pays, dont les pays européens. Et pour que ce programme d'évacuation humanitaire continue, il nous faut plus de place, puisque la seule solution actuellement pour libérer les personnes qui sont en détention en Libye est de les évacuer.
Céline Smith du HCR au micro de Ekia Badou. Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a prêté serment devant la Cour suprême ce mardi pour un second mandat à la tête du pays. Lors d'une cérémonie au Palais de la Culture de Bamako, retransmise en direct sur la télévision publique, la Cour constitutionnelle l'avait proclamé le 20 août vainqueur de la présidentielle avec 67,16% des suffrages au second tour du 12 août pour 32,84% à l'ancien ministre des Finances Soumaïla Cissé. Dans un communiqué lundi, M. Cissé, qui n'a pas reconnu sa défaite, a appelé les Maliens à une mobilisation pacifique et non violente pour défendre leurs droits démocratiques mardi après-midi. Le leader d'opposition et ses partisans organisent des marches de protestation tous les week-ends depuis l'annonce des résultats définitifs de la présidentielle. Et toujours concernant le Mali, un casque bleu a été blessé aujourd'hui par des tirs d'obus sur un camp de la mission de l'ONU à Ménaka, dans le nord du pays. L'attaque a eu lieu avant la prestation de serment du président Ibrahim Boubacar Keïta pour un second mandat, où sa tâche prioritaire sera de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion dominante Touareg. La mise en œuvre de cet accord accumule les retards et n'a pas empêché les violences de se propager du nord vers le centre du pays et aussi vers le Burkina Faso et le Niger voisin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection en République démocratique du Congo, l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba, dont l'exclusion de l'élection présidentielle en RDC a été confirmée lundi soir par la Cour constitutionnelle, a dénoncé aujourd'hui ce qu'il appelle une parodie d'élection. C'est très inquiétant, au-delà même de ma personne, le fait que l'on choisisse des opposants, a déclaré l'ancien vice-président, investi par le parti d'opposition MLC au scrutin du 23 décembre, qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. M. Bemba a accusé la Cour constitutionnelle congolaise d'être aux ordres du pouvoir en place et d'agir pour que le candidat de la majorité présidentielle puisse ne pas avoir de rival sérieux devant lui. Pour sa part, le MLC demande à la CPI, la Cour pénale internationale, de mettre fin à ce qu'il appelle la confusion autour de son arrêt condamnant Jean-Pierre Bemba pour subornation des témoins. Les juges de la Cour constitutionnelle congolaise ont donc validé la décision de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui avait rejeté la candidature de Jean-Pierre Bemba suite à sa condamnation à la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. L'ancien premier ministre congolais, Adolphe Mouzito, a lui aussi été écarté définitivement de la course à la présidence. Des détails avec Thierry Kambundi, le Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Recalé par la CENI le mois dernier, la candidature de Jean-Pierre Bemba n'a pas pu être repêchée par la Cour constitutionnelle, instance habilitée à gérer les contentieux électoraux. La Cour a, comme la Commission électorale nationale indépendante, estimé que la subornation des témoins pour laquelle l'ancien vice-président de la RDC a été condamné par la Cour pénale internationale est une forme de corruption. Sa requête a donc été jugée recevable mais non fondée. Définitivement écarté de la course à la magistrature suprême également, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito, suite à un conflit avec le parti lumumbiste unifié dont il était encore député national selon la Cour au moment du dépôt de sa candidature. Par contre, Sami Badibanga et Madame Marie-Josée Ifoku, recalés par la Commission électorale nationale indépendante pour détention des nationalités étrangères, ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle et seront bien candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Bassin du lac Tchad, plusieurs pays et organisations internationales ont promis 2,170 milliards d'euros d'aide au développement aux pays de cette région. C'était lundi à Berlin en Allemagne, lors de la deuxième conférence des donateurs pour le bassin du lac Tchad où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Le point avec Irénée Herman Ongbo.
Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, organisateur de la conférence, les fonds seront mis à la disposition des pays concernés au cours des prochaines années. En plus des 2,17 milliards de dollars, plusieurs banques d'aide au développement ont promis de débloquer 467 millions de dollars de prêts à taux bonifiés. L'Allemagne a annoncé de son côté une enveloppe supplémentaire de 100 millions d'euros d'aide humanitaire d'ici à 2020, ainsi que 40 millions d'euros de fonds dits de prévention et de stabilisation pour le bassin. Les fonds annoncés sont nettement supérieurs à ceux qui étaient sortis de la précédente conférence sur le bassin du lac Tchad. À Oslo l'an dernier, des contributions à hauteur de 672 millions de dollars y avaient été annoncées en deçà des demandes exprimées qui s'élevaient à 1,5 milliard de dollars. En amont de la réunion de Berlin, une dizaine d'ONG actives dans le bassin du lac Tchad ont chiffré la semaine dernière à 11 millions le nombre de personnes ayant un besoin d'aide humanitaire d'urgence dans cette région.
Septième forum à Pékin sur la coopération Chine-Afrique, le président chinois Xi Jinping a promis lundi 60 milliards de dollars au continent africain. L'engagement du président Xi est intervenu au début de ce sommet, auquel participent pendant deux jours les dirigeants de 53 pays africains. Et pour terminer l'actualité américaine, c'est aujourd'hui que commence au Sénat des États-Unis, ici à Washington, les audiences de confirmation de la nomination du juge conservateur Brett Kavanaugh par le président Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.